France Musique. Étonnez-moi, Benoît.
Effectivement, j'ai bien de la chance car je suis en direct de la merveilleuse abbaye de Cluny à l'occasion du lancement du Festival des Grandes Heures de Cluny et plus largement du Festival des Grands Crus de Bourgogne qui rassemble les manifestations musicales de la région. À mes côtés, Guy Touvron et sa trompette, François-Xavier Verger, administrateur de l'abbaye, Jean-Pierre Maurice, président de l'Office de Tourisme, mais aussi l'accordéoniste Michel Glasgow, les pianistes Hervé Célin et Bruno Membré, le quatuor Morfing et le contrebassiste Didier Levallée. On les retrouve immédiatement. Remontons juste un peu le temps pour nous plonger dans les délices de la vie monastique.
Dans les couvents, on est heureux, dès l'aube on se confesse, puis l'on se rend d'un air pieux, l'on se rend à la messe. Puis l'étude prend vos instants, puis l'on se rend au réfectoire, on mange des haricots blancs, on a de l'eau claire pour boire. Et l'on vit bien doucettement, non rien de tel que le couvent. Oui, l'on vit bien doucettement, non rien de tel que le pour digérer bien en repos ce bon déjeuner dînatoire, on marche à trois dans les préaux, se contant quelque histoire. Le soir de la ville, on entend l'orchestre des bals, des guinguettes, on plaint les pêcheurs un instant, puis on s'endort en ses couchettes. Et l'on dort bien doucettement, non rien de tel que le couvent. Oui, l'on dort bien doucettement.
Vie monastique, c'était Joseph Perron dans l'opérette La Poupée d'Edmond Audran. Et je me tourne tout de suite vers François-Xavier Verger, administrateur de l'abbaye. Les moines qui vivaient cette vie merveilleuse qu'on vient d'entendre, ou peut-être, ils ont quitté Cluny depuis combien de temps, les derniers moines ?
Depuis 1791, la Révolution française a dissous les communautés civiles et religieuses. Et quelques mois après, les moines de Cluny ont été invités à rejoindre la vie civile. Voilà. Ce qui fut un drame pour la région, pour eux-mêmes.
Et cette vision idyllique là, que nous chantait Joseph Perron, ça ressemble un petit peu à la vraie vie monastique ou c'est vraiment un monastère d'opérette?
J'ai du mal à percevoir son optimisme, bien sûr. Mais il est clair que les hommes qui rentraient dans les monastères de Cluny le faisaient par choix, ouais, et recevaient par la vie communautaire certainement le bonheur sur terre avant le bonheur au ciel.
Voilà. Ils buvaient de l'eau dans la chanson, hein.
Oui, ça m'a étonné d'ailleurs, parce que la dimension du cellier de l'abbaye de Cluny laisse penser qu'il ne devait pas boire que de l'eau.
Que de l'eau.
Mais en effet, la règle de Saint-Benoît prévoit qu'il puisse boire une émine de vin par jour, c'est-à-dire une dose, mais qu'on a du mal à quantifier.
Alors, en tout cas, merci de nous accueillir aujourd'hui à Cluny. Moi, je parle, je rêve de Cluny depuis toujours, je n'y étais jamais venu. Je rappellerai que c'était la plus grande abbaye de la chrétienté au XIe siècle et dans les siècles qu'on suivit. En deux mots, on y reviendra tout à l'heure, l'importance de Cluny, c'est considérable au Moyen-Âge.
Oui, c'est un des lieux qui est parmi les plus importants de l'Occident chrétien, oui, par la présence ici d'une communauté très nombreuse en nombre et commandée en général par des saints abbés, oui, à la personnalité rayonnante sur le reste de la chrétienté. Et pendant les deux ou trois premiers siècles de la vie de l'abbaye, l'abbaye a reçu énormément de donations de terres et donc de prieurés, ce qui fait que ce monastère, ici perdu à la frontière entre la France et l'Empire, s'est trouvé être à la tête d'une sorte d'empire monastique rayonnant à l'extérieur du territoire français, à l'extérieur de l'Empire aussi. Donc les frontières ont été abolies pour les moines clunisiens.
Et ce que je vais en découvrir aujourd'hui après l'émission, c'est un petit bout de l'ancienne abbaye de Cluny.
Le monastère de Cluny a été transformé plusieurs fois, notamment juste avant la Révolution, et l'église abbatiale a été détruite à la Révolution, donc on ne voit que des vestiges.
Voilà, mais en tout cas de beaux vestiges, j'ai pu le constater déjà ce matin grâce à Guy Touvon. Bonjour Guy.
Bonjour Benoît.
Vous étiez déjà venu dans l'émission pour parler de tout ce que vous avez fait, évidemment, pour la musique, avec votre trompette qui est là d'ailleurs dans votre main.
Bien sûr.
Mais vous avez une maison tout près d'ici, c'est donc vous qui m'avez attiré dans ce bel endroit. Comment vous êtes tombé vous êtes né à Vichy, vous avez joué partout dans le monde, qu'est-ce qui vous a conduit en Bourgogne?
Je pense que c'est une des plus belles régions de France, on n'en parle pas suffisamment. Alors bien entendu, il y a cette abbaye magnifique à Cluny, mais il y a aussi les petits monts qui entourent Cluny et qui ne sont jamais agressifs, c'est pas la haute montagne.
Ouais.
Et puis il y a aussi ces vignes très souriantes qui nous attirent, et donc du très très bon vin dans la région.
Ah, ça compte aussi.
Le festival de Cluny, justement, est très très lié, comme nos cinq festivals des Grands Crus, est très lié, évidemment, à la fois à la musique et au vin.
Donc vous avez vraiment, en tout cas, choisi ce coin pour votre maison de campagne par amour de ce paysage.
Et... Simplement, oui, oui. Voilà. Je n'aimerais pas être près de la mer, je n'aimerais pas être sur la haute montagne, mais dans une pure sagesse.
Vous êtes installé là depuis combien de temps?
Pas loin de 30 ans.
Pas loin de 30 ans. Voilà. Alors, on va vous retrouver d'ailleurs avec vos amis Bruno Membré et Michel Glasgow dans un instant, mais je me tourne également vers Jean-Pierre Maurice qui est avec nous, qui est responsable, vice-président de la communauté de communes et chargé du tourisme à Cluny, pour rappeler quand même que Cluny, ça n'est pas seulement un monument et un monastère, hein, c'est une vraie ville qui existe.
Bonjour, non, oui, absolument. Cluny, je vais me risquer une comparaison. Je pense que c'est la perle du sud Bourgogne, comme on dit, de Dubrovnik est la perle de l'Adriatique.
Ouais.
La ville dispose effectivement d'un patrimoine bâti médiéval exceptionnel, en plus de son abbaye. Et puis, il y a beaucoup de forces vives et d'animation sur notre territoire, avec un esprit associatif, un esprit dynamique qui en fait une cité très vivante.
Voilà, alors on va en parler aujourd'hui et surtout en parler en musique. On reste dans des musiques pas très religieuses, hein, je suis confus, mais le lieu semble ouvert à des activités culturelles très diverses. Et voilà, c'est la Diva de l'Empire d'Éric Satie dans la version pour trompette, piano et accordéon.
Thank you.
Merci Guy Touvron, merci Michel Glasco, merci Bruno Membré pour cette transcription, cette adaptation de la Diva de l'Empire que nous venons d'entendre ici en direct de Cluny dans le Farinier des Moines de l'Abbaye. Ça me fait plaisir d'ailleurs pour l'occasion de retrouver Bruno Membré. Bonjour.
Bonjour Benoît.
Voilà, qui est déjà venu lui aussi dans Étonnez-moi Benoît, parce que vous êtes un grand amoureux de l'opérette en particulier, hein, il faut le rappeler.
C'est vrai, je fais beaucoup d'opérettes, j'ai encore beaucoup de projets en opérette. À la rentrée aussi, deux croisières musicales, plus ou moins opérettes, opérette, opéra.
Voilà, Bruno Membré, je le rappelle, qui a dirigé pendant de très longues années le conservatoire de Tourcoing.
Pendant 32 ans, oui.
32 ans, et voilà. Et puis vous avez arrêté pour prendre du bon temps et du temps de musique.
Pour prendre ma retraite et faire beaucoup plus de musique encore qu'avant. Et je suis installé maintenant sur la Côte d'Azur.
Voilà, un changement radical. Vous vous êtes rencontré comment avec Guy?
Sur Internet.
Non, Bruno m'avait invité en fait, quand il était encore directeur du conservatoire de Tourcoing, il m'avait invité à jouer le concerto de Henri Tomasi et avec son orchestre. Et donc, c'est là où nous avons fait connaissance. Et puis... la musique est passée entre nous et
voilà. Et vous avez fini alors par former une sorte de trio. Je ne sais pas si c'est un trio officiel, le trio Glasco, Touvron, Membré.
Nous ne travaillons jamais, enfin toujours dans l'officiel, bien sûr.
Et vous avez enregistré un disque à peu de temps. Bonjour Michel Glasco.
Bonjour Benoît.
Vous êtes un merveilleux accordéoniste, fou de musique sous toutes ses formes. Et comment est-ce que vous avez rejoint cette petite bande vous-même ?
Grâce à Guy, parce que Guy a un réseau de musiciens absolument incroyable, et voilà, c'est grâce à Guy que j'ai intégré la formation, qu'on a monté le groupe.
Voilà, il faut rappeler, Michel Glasco, que vous travaillez, je le dis, vous êtes passionné par toute forme de musique, vous avez d'ailleurs même étudié la musicologie très sérieusement, parallèlement à l'accordéon, vous connaissez tout, j'étais frappé en discutant avec vous hier, mais vous avez peut-être un goût particulier pour le travail avec les chanteurs et les chanteuses.
Oui, j'aime bien, en tant qu'accordéoniste, effectivement, à Paris, on rentre très vite dans le circuit de ce qu'on appelle les chansonniers, et j'ai accompagné pas mal d'auteurs, compositeurs, interprètes.
Il y a une vraie présence aujourd'hui de l'accordéon dans ce domaine, enfin un renouveau même.
Oui, il y a des lieux pour, de moins en moins, mais il y en a
de
encore.
De moins en moins malgré tout, d'accord. Bon. Alors on va vous retrouver tout à l'heure, tous les trois, mais j'ai choisi, tiens, pour faire une petite ponctuation musicale, une artiste que je ne connaissais pas, j'ai découverte grâce à vous, Michel Glasco, parce que vous avez beaucoup travaillé avec elle. Elle s'appelle Sophie Terol, et alors c'est vraiment une fantaisiste comme on en a dans la musique légère, mais on n'en a plus beaucoup dans la chanson.
Oui, c'est très rare aujourd'hui. Elle est capable, en une chanson, de retourner la salle, de la faire rire, et la chanson d'après, de l'émouvoir et de la faire pleurer. C'est très rare aujourd'hui.
Ah bah merci pour cette découverte, je vais suivre ça de près. Cette petite chanson où vous l'accompagnez, Sophie Terol, ça s'intitule « Stress ».
Je me lève tous les jours à 6h30, prends ma douche, je me lave les dents vite fait. Je dois préparer le petit déjeuner pour toute la famille. Je renverse le bol de lait, je vais réveiller les enfants. Je fais les lits dans la salle de bain, les coiffes, les habits. Le chat me mordit le poignet, réclame la pâtée. Et mes dents veulent sortir faire pipi. Dépêche-toi Rémi, range ton cartable, il est 8h. Ma chérie, mon pull noir, dans le tiroir. Je prends la voiture, je fonce faire les courses au feu orange, j'accélère comme ça je gagne du temps. Mais il y a un type idiot discipliné qui s'est arrêté, bataboum, accident. C'est pas grave, maintenant je suis à pied, je continue sur le trottoir, j'écrase un espoir. Arrivé au magasin, je remplis à ras-bord, mon caddie, je rentre chargé comme une bourrique. Flaque mon sac plastique, c'est percé. Ma chérie, les cigarettes. Oh, j'ai oublié, il faut que j'y retourne. La 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 la. À la maison, c'est moi qui fais le ménage, la cuisine, la lessive, le rangement, le repassage. Je m'occupe de toute l'administration de la maison et je répare les vélos. Je coule les pantalons, il est 20h. Quel bonheur, c'est ma sœur qui attend que j'aille la chercher. Je prends les transports en commun, il y a plein de monde. Alors vous êtes fatigué? La famille est réunie le soir, je mets la table en dîne. Je fais la vaisselle, bonsoir mes chéris, bonne nuit. Comment mon amour? Maintenant? La 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 la
Sophie Terrol avec Michel Glasco à l'accordéon dans cette chanson intitulée Stress. Nous sommes toujours au dans le farinier des moines de l'abbaye de Cluny en direct, en public sur France Musique avec beaucoup de musiciens qu'on va retrouver dans un instant.
Benoît Dutertre, Étonnez-moi Benoît, France Musique.
Mais je me tourne d'abord à nouveau vers mes invités pour préciser un petit peu la richesse de la vie culturelle et musicale de la région. Jean-Pierre Maurice, Cluny, sa communauté de communes, tout se passe à l'abbaye ou il y a bien d'autres choses encore ?
Il se passe beaucoup de choses à l'abbaye, bien évidemment, mais il y a beaucoup de choses sur tout le territoire du Clunisois. Dans la communauté de communes, effectivement, ce territoire qui ressemble un petit peu à qui a des airs de Toscane, donc ouais. Avec ses villages de vieilles pierres, est très animé, avec des festivals qui ont pris des dimensions régionales, en art vivant, en musique contemporaine, en jazz, donc en classique. Et puis, il y a effectivement à Cluny une particularité, c'est le cheval, parce que le cheval
fait partie... Oui, des haras, des...
Absolument, voilà, il y a haras nationaux, donc, et puis le cheval fait partie de la vie de Cluny, et il y a, pendant toute la saison estivale, un spectacle équestre de très grande qualité qu'il ne faut absolument pas manquer à Cluny.
C'est pas commencé, là?
Ça va commencer à partir du 7 juillet.
Bon, il faut que je revienne, donc.
Absolument, avec grand plaisir.
Et alors, François-Xavier Verger, la vie culturelle de l'abbaye, elle est très importante, elle fait partie des missions aujourd'hui de cette institution.
Oui, c'est bien sûr une mission du Centre des Monuments Nationaux en tant qu'établissement public du ministère de la Culture. Ouais. Notre première mission ici, c'est évidemment d'accueillir les visiteurs qui viennent très nombreux, plus de 130 000 visiteurs par an, tout en leur proposant des activités au rythme de l'année, en fonction du climat, évidemment. Ouais. Alors, nous avons des expositions temporaires. Aujourd'hui, nous allons présenter une exposition, une création artistique de Anne Poivillier dans la chapelle du Grand Transept. Et puis, à partir du mois de juillet, nous allons accueillir les festivals, dont les Grandes Heures de Cluny.
Bien sûr.
Le festival d'aujourd'hui à demain, la musique contemporaine, la musique plus classique, les Grandes Heures de Cluny, et puis plus tard, le festival Jazz Campus. Ça, c'est notre été. Nous avons une chance inouïe de pouvoir recevoir, d'accueillir dans le monument les grands musiciens et le public des passionnés.
Alors, là, pour ce qui est des festivals, disons, plus classiques, ils sont regroupés, Guy Touvron, au sein d'un ensemble qui est le Festival des Grands Crus de Bourgogne qu'a fondé, je crois, Yves Henry
et
Thierry Kans, un trompettiste,
il
justement.
Les trompettistes ont toujours de bonnes idées.
Oui, je vois, oui.
Non, ce Festival de Cluny rejoint, depuis 31 ans, ce Festival musical des Grands Crus de Bourgogne. Alors, voilà. Ce festival se compose de 5 festivals
festivaux,
bien distincts.
Festivaux, non ? Je sais pas, non, festival, je crois.
Vous avez, ouais. Les veaux, il faut les laisser avec les vaches. Donc le festival du Chablisien, le festival de Noyers, Bac à Bacchus à Meursault, les Grandes Heures de Cluny bien sûr, et puis musique au Chambertin. Voilà, ce ne sont que des grands crus, que des grands vins et que des grands plaisirs.
Et qui s'échelonnent tout au long de l'été, hein, donc il y a de la musique
oui,
à peu près tout le temps.
Oui, ça s'échelonne du mois de juillet jusqu'au mois de septembre-octobre même, ça se termine voilà. En octobre.
Et vous, festival des Grands Crus de Bourgogne, ça laisse entendre qu'il y a un lien direct entre ces festivals et les Grands Crus de Bourgogne.
Oui, bien entendu. Enfin, en tout cas, pas toujours les plus grands crus, parce que...
Ils sont un peu inaccessibles.
Voilà, c'est ça. Ouais. Mais en tout cas, je pense qu'il y a une réelle réelle connexion avec les viticulteurs.
Et on va recevoir tout à l'heure Michel Barrault, qui
bien sûr, bien sûr, qui nous aide beaucoup, à Cluny.
Et vous-même, Guy, vous êtes... alors. Directement, on en reparlera tout à l'heure de la programmation, directeur, président d'ailleurs du festival des Grandes Heures de Cluny, qui lui est le festival vraiment domicilié dans cette ville et dans cette abbaye.
Oui, je suis surtout directeur artistique, ouais. Président est un bien grand mot et qui est employé par d'autres, mais en tout cas c'est un plaisir depuis 5 ans d'inviter des artistes de prestige et puis surtout de faire plaisir à un public qui vient de plus en plus nombreux nous entendre.
Et parmi ces artistes que vous avez invités, et aujourd'hui, notamment pour le lancement du festival, il y a un quatuor de saxophone formidable qui s'appelle le Quatuor Morphing. Vous les avez connus comment, Guy Touvron ?
Je les ai connus simplement par l'intermédiaire de France Musique. Ils avaient fait une émission sur France Musique. Ils m'avaient totalement séduit et je me suis dit il faudrait absolument non seulement les inviter à Cluny, mais c'est le Festival des Grands Crus de Bourgogne qui en a fait le fil rouge de 2017, c'est-à-dire qu'ils vont jouer dans tous les festivals.
Voilà, et donc après bah, la diva de l'Empire, on va maintenant danser le tango dans l'abbaye. C'est pas dans vraiment ce qu'on imagine au départ, mais cette abbaye se prête à toutes les musiques. Le tango, donc le libertango même de Piazzolla, par le quatuor Morphing. Toujours en direct de l'abbaye de Cluny, c'était le quatuor Morphing dans Libertango, le quatuor Morphing, autrement dit, Christophe Grèze, saxophone soprano, Eddy Lopez, saxophone alto, Anthony Malcoun-Orion, saxophone ténor, Mathieu Delage, saxophone baryton. Bonjour, c'est Eddy Lopez.
Bonjour, nous sommes ravis d'être ici.
Mais nous sommes ravis que vous soyez avec nous. Vous vous êtes rencontrés au conservatoire, je crois.
Au CNSM à Paris, au conservatoire de Paris, où on était tous les quatre... dans la classe de Claude Delangle, et puis on s'est dit, pourquoi pas, en plus d'être amis, faire de la musique ensemble, quoi.
et fondé un quatuor de saxophone.
Exactement.
Qui est une formation, on peut dire, à la fois établie, parce que vous n'êtes pas le premier quatuor de saxophone, il y en a eu beaucoup, mais non, relativement rare quand même.
Oui, c'est vrai qu'on a un héritage assez grand dans le quatuor de saxophone quand même en France. Et puis on est ravis voilà, de défendre cette formation quand même assez méconnue dans la musique classique, il faut le dire. Avec le quatuor Morphing, au départ, on s'est lancé dans la transcription de...
Voilà. Parce qu'il faut dire que le quatuor de saxophone, bon, a suscité, surtout au XXe siècle, pas mal d'œuvres originales, hein, de compositeurs, comme je pense à Pierney, à Jean Français, à Esquèche, qu'on entendra tout à l'heure, beaucoup d'autres, Rivier. Mais vous, ce qui vous a intéressé, donc, c'est aussi de jouer du grand répertoire classique dans des transcriptions. Vous avez même, je crois, justement, peut-être c'est comme ça, Guy, vous avez entendu, jouer à France Musique un mouvement du quatuor de Ravel que
quatuor
vous avez
enregistré. Ravel. Exactement. Donc, pour nous, la formation maîtresse pour nous, enfin en tout cas dans le quatuor Morphing, on admire le quatuor à cornes, notamment les grands quatuors à cornes, et on a essayé de se lancer justement dans la transcription de ces grandes œuvres. Et puis on est très content d'avoir enregistré deux grands quatuors, le quatuor de Maurice Ravel, donc qui est très emblématique de la musique de chambre pour nous, et le tout dernier, opus 81, quatuor à cordes de Félix Mendelssohn.
Voilà, ça c'est un disque qui va sortir dans quelques temps.
À la fin de l'année.
À la fin de l'année. Voilà. Mais alors, quand on veut jouer le quatuor de Ravel avec quatre saxophones, il suffit de prendre les quatre parties de cordes et de les jouer sur des saxos ?
Voilà. Alors
il y a un travail plus complexe d'adaptation.
On prend les parties des violons, de l'alto et du violoncelle. On pleure en premier, parce que c'est très compliqué. Parce qu'il y a surtout le quatuor de Ravel, qui est un quatuor, je disais emblématique, mais c'est aussi par tous les modes de jeu qui sont utilisés, évidemment, très spécifiques aux cordes, quoi. Et du coup, c'est un challenge de chaque instant pour des saxophonistes d'essayer d'adapter des pids, d'essayer d'adapter...
Ah oui, c'est comment un pids au saxo, hein ?
Eh bien, c'est un espèce de slap, mais modifié. Si on fait un vrai slap de saxophoniste, on n'a pas l'effet que voulait Maurice Ravel, par exemple. Donc, c'est beaucoup de boulot. Voilà. On a notamment travaillé avec le quatuor Eben, qu'on salue s'il nous écoute, pour essayer de coller au mieux à cette version originale, quoi.
Mais vous aimez bien aussi jouer des pièces plus légères. Vous venez nous le montrer et on va continuer d'ailleurs tout à l'heure.
Alors là, dans le festival qui est quand même largement lié au vin, on s'est dit qu'on allait jouer un petit peu du tango et de la musique dansante parce qu'on adore ça aussi. Et on prépare un projet lié à ça, lié à des transcriptions de chansons françaises, de tango, de musique plus légère.
Voilà. Vous tournez pas mal, hein, vous êtes adoré au Japon, en Allemagne et dans d'autres pays.
Voilà, bah écoute, la musique n'a pas de frontières et puis ça nous va bien.
Oui, en tout cas merci encore.
Merci beaucoup.
D'être avec nous, le Quatuor Morphing, Christophe Grèze, Eddy Lopez, Anthony Malcoun, Orion, Mathieu Delage, on va vous retrouver d'ailleurs dans quelques minutes, mais alors, vous voyez, j'alterne les petits documents rares et la musique live, et alors j'ai trouvé encore là une chanson, c'est plus sur la vie monastique, c'est sur le vin de Bourgogne, c'est extrait d'un opéra comique de Monsieur Boyel Dieu qui s'appelle Le Nouveau Seigneur du Village et il chante une ode au vin de Chambertin.
Chambertin, on dit que c'est du Chambertin,
du Chambertin,
du Chambertin.
Oui, vraiment, c'est de très bon vin. Oui, vraiment, c'est de très bon vin. Mais est-ce bien du Chambertin?
Oh oui,
est-ce bien du Chambertin?
Oui.
J'en veux goûter encore pour en être certain, pour en être certain. Non, 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 ce n'est pas du Chambertin.
Quoi? Ce n'est pas du Chambertin?
Non, ce n'est pas du Chambertin.
On m'a pourtant bien dit la chose.
Je puis me tromper, je suppose, voyons. Recommençons encore, pour ne pas être dans mon tort, pour ne pas être dans mon tort. Oui, oui, la chose me paraît sûre.
N'est-il pas vrai?
Oui, oui.
décidément, je vous le jure, je vous le jure, vous avez là du chambertin.
Ah, j'en étais bien certain, j'en étais bien certain,
j'en étais bien certain,
j'en étais bien certain.
D'excellent vin, vous avez là d'excellent vin.
Oh, vraiment, vraiment, j'en suis bien certain.
Vous avez là d'excellent vin, vous avez là d'excellent vin.
Oh, vraiment, vraiment, j'en suis bien certain.
Oui,
j'en suis certain.
Oui,
j'en suis certain.
Voyez le Dieu qui excellait à mettre en musique tous les dialogues et les situations de la vie quotidienne. Là, c'est une dégustation de vin. S'agit-il ou pas de Chambertin? Le Chambertin, d'ailleurs, c'est pas très très loin d'ici, Michel Barrault.
Ah, c'est à quelques dizaines de kilomètres
quelques
quand même, au nord de la Bourgogne. Nous sommes vraiment dans le sud.
C'est une région viticole complètement différente.
C'est une région viticole différente, mais avec des vins différents, mais tout aussi agréable et plaisant.
Voilà, alors parce qu'ici, alors je le dis, vous êtes vigneron hein, dans la région de Cluny, et ici le vin dans cette Bourgogne Sud, c'est plutôt le vin blanc.
Oui, alors je suis vigneron dans la partie mâconnaise, donc à quelques kilomètres de Cluny, à proximité. Donc effectivement, les vins sont plutôt blancs chez nous, donc avec des crus prestigieux comme le Pouilly-Fuissé, le Saint-Véran ou l'ensemble des Mâcon Village.
Mais c'est-à-dire que les moines de l'abbaye buvaient plutôt du vin blanc que du vin rouge?
En tout cas, l'héritage aujourd'hui, c'est du vin blanc, mais il y avait évidemment les deux. Et beaucoup des vignes de la région sont des vignes héritées des moines de Cluny.
Ah oui. Il s'intéressait déjà beaucoup à la chose. Donc.
Oui, oui. Il y a dans la région de Mâcon un grand nombre de prieurés de Cluny destinés à produire du vin.
Voilà, et donc ces deux mondes se rejoignent aujourd'hui dans notre émission et dans ce festival des Grands Crus de Bourgogne, parce que Michel Barrault, vous êtes vigneron, mais vous parrainez aussi cette activité musicale.
Oui, tout à fait. Au sein de notre cave, donc la cave Vigneron des Terres Secrètes, on a toujours eu l'habitude d'associer les éléments culturels au vin, et donc on est partenaire des Grandes Heures de Cluny depuis plus d'une vingtaine d'années. C'est pour nous tout naturel, en fait. Il y a beaucoup de similitudes entre la musique et le vin. On a pu entendre la qualité du quatuor qui a joué tout à l'heure. On mesure tout le travail que ça nécessite, toute la passion. Et je crois que c'est vraiment similaire au métier de viticulteur. Et on travaille pour partager quelque chose, pour faire partager quelque chose. Alors, soit de la musique, soit du vin. En l'occurrence, pour nous, c'est du vin. Donc, c'est naturel d'associer musique et vin, bien naturellement.
Guy Touvron.
Et c'est toujours la joie.
Ouais.
Quand on boit un excellent vin ou quand on écoute une excellente musique, ben voilà. La joie est en nous. Et c'est ce qu'il faut transmettre aux gens.
Avec Michel Barrault, donc, vous avez une amitié musicale et
voilà,
viticole,
chaque année, en tout cas,
ancienne.
Chaque année, les Terres Secrètes nous sponsorisent beaucoup, nous aident beaucoup. Et puis d'autres caves, bien entendu, puisque à chaque concert, il y a une dégustation de vin, etc. Et les gens aiment beaucoup ça.
Alors, je voudrais, avant qu'on écoute le morceau suivant, par le Quatuor Morphing, revenir un instant, François-Xavier Verger, à l'histoire de l'abbaye, parce que on sait que dans beaucoup de monastères, les moines sont partis à la Révolution et puis sont revenus ensuite. Pourquoi l'histoire de Cluny s'est arrêtée définitivement, on peut dire, comme vous l'avez dit, en 1791, de ce point de vue-là?
Peut-être parce que Cluny avait une dimension singulière dans le monachisme. Et que cette dimension s'était exercée essentiellement au moment où le monachisme avait besoin d'être reconstitué, c'est-à-dire au 10e, 11e et 12e siècle, et qu'ensuite d'autres ont pris le relais.
Oui.
Et les autres, c'est sûrement les cisterciens, et c'est sûrement ensuite les autres communautés religieuses qui ont trouvé une autre fonction.
C'est-à-dire qu'il y avait déjà eu un certain déclin de l'abbaye avant la Révolution, en fait, on peut dire.
Moi, j'aime pas le dire comme ça, évidemment, mais il est évident que la fonction de Cluny était moins importante après les guerres de religion.
Voilà. Et donc, l'abbatiale, en plus ayant été détruite, il faut le rappeler, était le plus grand monument de la chrétienté jusqu'à la construction de Saint-Pierre de Rome.
Oui, c'est ça. L'église romane de Cluny, qu'on appelle Cluny III, a été, pendant plusieurs siècles, le plus grand monument construit en Occident, et en particulier donc la plus grande église, plus grand que les cathédrales, plus grand que les cathédrales gothiques. Elle mesurait pratiquement 187 mètres de long. Mais sa grande particularité, c'était la hauteur et la lumière.
Ouais.
L'abbaye de Cluny était le monument le plus haut de toute l'époque romane et a été dépassé, bien sûr, par les cathédrales gothiques, mais il y avait quand même cette dimension incroyable.
Et on a des documents intéressants sur la pratique de la musique, et notamment du plein chant à Cluny spécifiquement.
Oui, et du lieu où nous sommes, nous pouvons voir un des chapiteaux de l'église détruite qui représente des instruments de musique.
Et oui.
Cluny, c'est la musique monastique. Plusieurs des grands abbés de Cluny ont composé, on conserve aujourd'hui leur partition bien sûr, mais les textes qu'ils ont mis en musique, et ils ont développé la liturgie en musique au point d'être une référence internationale dans tout l'Occident pendant plusieurs siècles.
Voilà, alors donc lieu de musique très lointain et très ancré dans l'histoire. On va tout de suite redonner la place à la musique vivante avec le quatuor Morphing à nouveau et une œuvre de notre très contemporain et ami Thierry Escaich qui s'intitule « Tango virtuoso ».
Thank you.
Bravo et merci encore au Quatuor Morphine qu'on va retrouver tout à l'heure et qui est présent d'ailleurs, je crois, dans plusieurs des manifestations organisées ici en Bourgogne. Hein,
bien entendu, ils ont fait des concerts scolaires hier pour les jeunes enfants de Cluny. À ce propos, ce sont les enfants des écoles de Cluny qui ont élaboré les affiches de notre festival,
oui.
Bien sûr. Tout ça, ce sont voilà.
J'ai sous les yeux, d'ailleurs, très réussi. Oui.
Il y aura une exposition de ces dessins d'enfants, de ces découpages d'enfants, à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de notre festival.
Donc ça, c'est un travail avec la commune de Cluny.
La commune et puis aussi la DRAC, etc. Il y a des intervenants qui sont allés dans les écoles clunisoises et qui ensuite ont fait entendre de la musique de notre programme de cette année aux enfants, et les enfants ont dessiné ensuite ce qu'ils ont ressenti.
Donc le festival, ça commence avant le festival.
C'est à l'année.
C'est à l'année.
C'est un travail vraiment à l'année et une animation formidable toute l'année.
Alors cette édition, Guy Touvron, des Grandes Heures de Cluny 2017, c'est du 27 juillet au 13 août prochain. Donc
oui.
Les enfants ont travaillé avant pour l'affiche.
Bien
et
sûr.
Puis, vous nous proposez un programme très très varié. Hein. On sait que la musique ça coûte parfois cher, mais vous faites venir aussi des orchestres et pas seulement de la musique de chambre, hein, toutes sortes de formations.
Je pense que si on veut attirer de nombreux spectateurs, il faut engager des artistes de qualité et puis dans des programmes également attractifs de qualité aussi, bien sûr.
C'est quoi le fil conducteur de ce festival d'une façon générale et cette année en particulier, c'est faire entendre toutes sortes de musiques ou il y a une idée directrice?
Non, c'est tout simplement d'essayer de programmer un maximum de plaisir pour les gens qui viennent nous entendre. Il n'y a pas de thème précis, je n'en souhaite pas.
D'accord.
Parce que je pense que la musique est très éclectique et doit voyager, doit plaire à un nombre infini de personnes, voilà.
Et c'est comme ça qu'on commencera dans le cloître de l'abbaye.
Oui, par un concert Tchaïkovski avec l'orchestre symphonique de Briançx. Et il est venu il y a quelques années nous donner la symphonie du Nouveau Monde de Dvorak. Ils reviennent cette année pour nous donner la quatrième symphonie de Tchaïkovski. Et puis le célèbre concerto pour violon qui sera joué par une jeune femme vraiment extraordinaire dont la carrière pointe actuellement. Elle s'appelle Elsa Gretter, elle est vraiment formidable.
Voilà, et puis c'est aussi avec orchestre que vous refermerez le festival, hein, enfin avec l'orchestre de chambre, les solistes de Salzbourg dans les quatre saisons.
Voilà, nous avons eu l'orchestre de chambre de Berlin, l'orchestre de chambre du Concertgebouw d'Amsterdam. Cette année, c'est l'orchestre de chambre de Salzbourg et c'est toujours d'une qualité vraiment extraordinaire.
Et entre-temps, entre les deux, alors le trio Olivier Charlier, Aurélien Pascal, Olivier Gardon le 3 août, le cher Nicolas Angelich le 4 août, le 5 août, et bien la trompette. Vous n'êtes pas le seul trompettiste programmé dans le festival, Guy Touvron.
Mais je ne me suis pas programmé cette
du
année.
Tout,
non,
hein
pas du tout. Pas
vous
du
en
tout.
Invitez d'autres.
Non, non, mais j'aime la trompette et j'aime surtout les trompettistes.
Oui.
Bon, nous avions programmé il y a quelques années Thierry Kanz, etc. Cette année, nous avons programmé Sergueï Nakaryakov, qui est un des grands, grands.
Que vous
grands
aimez
virtuoses.
Beaucoup, je me rappelle qu'on
mais
en avait parlé.
Mais bien sûr, c'est un des grands virtuoses du 21e siècle.
Et puis le 10 août, le Stabat Mater par l'ensemble Calliope de Pergolèse.
Alors c'est un ensemble féminin qui vient de Lyon, mais de grande qualité.
Oui.
Alors bien entendu, le Stabat Mater de Pergolèse est très très connu. Celui qui l'est moins, c'est celui de Guillaume Lacrouste. Et ils vont s'imbriquer l'un dans l'autre pour nous donner, pour honorer justement la Vierge.
Et les lieux de votre festival des grandes heures de Cluny, Guy Touvron, c'est évidemment l'abbaye, on l'a dit, le cloaque, le Farinier,
nous sommes ici. Le Farinier, bien sûr.
Et puis l'église Saint-Marcel, alors ça je ne sais pas.
Alors l'église Saint-Marcel, elle est pas très très loin, elle est bien entendu centrale à Cluny aussi. Elle a la particularité de ne pas avoir de piliers, donc tous les spectateurs sont enchantés de voir l'orchestre, voilà. Et puis elle est en cours de restauration progressivement, et mon grand but, c'est d'y construire un jour un orgue.
Ah, voilà. Donc vous avez plein de projets pour la suite.
Il y a un orgue à Notre-Dame, mais voilà, j'en voudrais un également pour le... Nous y arriverons.
Voilà, ça c'est le programme donc 2017 des Grandes Heures de Cluny du 27 juillet au 13 août. Et tiens, moi j'ai envie d'écouter quand même un peu de trompette par Guy Touvron, extrait de son dernier disque. Réjouissance, extrait des feux d'artifice royaux de Handel. C'était vous-même, Guy Touvron, avec l'orchestre Albéric Magnard. Un extrait d'un coffret qui vient de sortir, je le dis quand même, parce que c'est moi ce qui m'a enchanté. Je ne sais pas si c'est vous qui avez supervisé, ça s'appelle Itinérance musicale. Et ce sont quatre CD de Guy Touvron, avec beaucoup d'autres musiciens. Et vous avez consacré tout un disque plutôt à la musique classique, tout un disque plutôt à la musique de chambre, tout un disque à la musique pratiquement de variété, comme celle que vous jouez aussi avec Michel Glasgow et Bruno Mambré. Voilà, il y a vraiment cet éclectisme du choix.
C'est un disque qui a représenté ma vie et ma carrière, ce qui ne veut pas dire qu'elle est terminée. Mais en tout cas, j'ai voulu donner un aspect à la fois de mes activités avec orchestre, de mes activités avec d'autres trompettistes. Vous aviez le cas ici avec deux de mes anciens élèves, et puis aussi j'ai voulu ressortir des mélodies de Gabriel Fauré ou de Reynaldo Hahn que j'adore,
voilà.
Et puis aussi les disques de un petit peu plus variés avec Jacques Loussier, en particulier la badinerie de Jean-Sébastien Bach qu'il avait arrangé, et puis justement Michel Glasgow, Bruno Mambré, voilà.
Daniel Collin aussi, que j'aime
beaucoup.
Oui,
Daniel Collin à l'accordéon, bien sûr.
Mais c'est quand même, j'ai envie de dire, je ne sais pas d'où ça vient, dans le style de vie et la culture des trompettistes, parce que c'est vraiment dans les grands solistes classiques, ceux qui, le plus souvent, je pense à Maurice André, mais à beaucoup d'autres, aiment aller voir de tous les côtés de la musique.
Mais je pense simplement que même si le répertoire de la trompette s'est considérablement enrichi au XXe siècle, oui, et continue de s'enrichir bien évidemment, je crois qu'un trompettiste a besoin de voyager. Voilà. Voilà. Itinérance musicale, c'est un itinéraire, c'est un ensemble de voyages à travers le monde et ça représente bien la carrière de quelqu'un. On n'a pas un répertoire suffisant, si vous voulez,
pour vous contenter de jouer voilà, les concertos répertoriés.
Oui, oui, oui. Bon. On joue même parfois du corps.
Alors, juste un mot avant de rejoindre nos amis pour un autre morceau avec Bruno Mambré et Michel Glasco. Un jour, tu verras, encore une adaptation d'une belle chanson. Mais vous avez changé d'instrument. Là, vous avez dans les mains un bugle qui n'est pas tout à fait une trompette, comme on le sait.
Alors, le bugle, c'est un instrument qui a été inventé par Adolphe Sax.
Et voilà hommage à Adolphe Sax. On peut l'applaudir parce que c'est une grande figure de la vie musicale française.
Oui, Adolphe Sax a inventé, a eu deux familles, la famille des saxophones avec le soprano, l'alto, le ténor, la basse et puis bien d'autres, même le saxophone contrebasse, etc. Et puis il a inventé les sax hornes, c'est-à-dire le petit bugle en mi bémol, le bugle en si bémol, et puis ensuite l'alto, le baryton, etc. Voilà. C'était un grand maître de la musique. Il a aidé énormément les cuivres au XXe siècle. C'était vraiment formidable.
Et là, vous allez jouer sur les deux.
Voilà. Oui, parce que le bugle a un son beaucoup plus rond.
Donc on va entendre la transition.
Adolphe Sax devait être sympathique.
Ok, merci. Vous rejoignez donc Guy Touvron, vous rejoignez Bruno Mambré et Michel Glasco. Et nous écoutons maintenant, toujours dans le farinier des moines de l'abbaye de Cluny, cette belle chanson « Un jour, tu verras ». Un jour, tu verras la belle chanson de Georges Vamparis, jouée par Bruno Mambré, Michel Glasco et Guy Touvron. Nous sommes, vous savez, dans le sud de la Bourgogne, au milieu des vignes, dans la belle abbaye de Cluny. Dans un instant, on va parler de jazz, parce qu'on l'a dit déjà, le jazz est présent également dans la région, avec notamment Didier Devallée et Hervé Célin. Mais puisque je vous propose aujourd'hui aussi quelques petites chansons décalées sur la vie monastique et les ordres religieux, je n'ai pas résisté à ressortir le tube de Sœur Sourire.
Dominique et Nique s'en allaient tout simplement, routiers, pauvres et chantants. En tout chemin, en tout lieu, ils ne parlent que du bon Dieu, ils ne parlent que du bon Dieu. À l'époque où Jean sans terre d'Angleterre était le roi, Dominique, notre père, combattit les albigeois. Dominique, Nique s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Certains jours, un hérétique par des ronces le conduit, mais notre père Dominique par sa joie le convertit. Dominique, Nique s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Ni chameau, ni diligence, il parcourt l'Europe à pied, Scandinavie ou Provence, dans la sainte pauvreté. Dominique, Nique s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Enflamma de toute école, filles et garçons pleins d'ardeur, et pour semer la parole, inventa les frères prêcheurs. Dominique, Nique s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Chez Dominique et ses frères, le pain s'en vint à manquer, et deux anges se présentèrent portant de grands pains dorés. Dominique, Nique s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Dominique vit en rêve les prêcheurs du monde entier, sous le manteau de la Vierge en grand nombre rassemblés. Dominique, Nique s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Dominique, mon bon père, regarde-nous simples et gais, pour annoncer à nos frères la vie et la vérité. Dominique, Nique s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu.
Et oui, ce fut un tube mondial en 1962, Dominique Nique avec le jeu de mots involontaire et la chanson donc de Sœur Sourire. Mais ici, nous sommes en pays bénédictin et non pas dominicain à l'abbaye de Cluny. Et nous allons continuer à parler ensemble de la vie musicale formidable de cette région avec Hervé Célin, le pianiste. Hervé Célin, bonjour.
Bonjour.
Et puis Didier Levallée, vous êtes un peu Didier Levallée, alors on ne vous présente pas, vous
bonjour.
Êtes un des grands musiciens de jazz français, un immense contrebassiste qui a joué à peu près avec tout le monde, les plus grands en tout cas, sauf avec Hervé Célin, mais ça va se faire tout à l'heure, donc voilà, c'est voilà. Très bien. Et vous êtes un peu comme Guy Touvron, arrivé dans cette région un jour et puis vous vous êtes beaucoup fixé.
Oui.
Parce que vous avez fait vos études musicales à Lille.
J'ai débuté à Lille, oui.
Oui.
Ben oui, parce que ma famille avait voyagé, avait changé de lieu de résidence. Donc, mais bon, je suis quand même, c'était un peu anecdotique, mais je suis quand même né en Bourgogne.
Ah, voilà, mais, c'est ça. Dans Lyon.
Dans Lyon.
Voilà, j'ai vu ça.
Alors, et puis un été, je suis venu visiter des amis qui s'étaient installés dans la région. Et puis acheter un peu de vin aussi. Bon, voilà. Et à l'époque, il y avait plein de maisons à vendre pour rien du tout.
Et voilà, ça a changé, ça.
Essayez aujourd'hui.
Ouais, bon, d'accord.
C'était il y a 42 ans. Oui.
Alors, vous avez depuis maintenant fort longtemps, justement, créé un festival de jazz autour de Cluny. Ça s'appelait Jazz à Cluny. Aujourd'hui, c'est Jazz Campus en clunisois. Et c'est une longue aventure déjà.
Hein. Ah bah oui, 40 ans.
40 ans.
Ça a débuté très modestement par juste des ateliers ouverts à tous, gratuits, enfin d'un stage, quoi, voilà. Et puis petit à petit, j'ai découvert l'existence des affaires culturelles régionales, des choses que nous, musiciens de jazz, à l'époque, on n'avait pas de lien avec l'administration officielle. Hein. Ouais, ouais. Donc, mais quand même, on m'a trouvé un peu de sous et j'ai pu monter les premiers concerts. Et voilà, ça dure depuis ce temps-là, dans un pays quand même. Bon, je suis peut-être né dans Lyon, mais je regrette pas d'avoir atterri ici. Ouais, voilà. C'est pas mal.
On va redire un mot de Jazz à Campus dans un instant. C'est du 20 au 26 août, donc dans ce coin de la Bourgogne-Sud. Hein.
19 même.
Du 19 au 26 août. Et on va quand même écouter un peu de musique parce que on a avec nous aussi aujourd'hui donc Hervé Célin, bonjour.
Bonjour.
Voilà, grande figure du jazz également, professeur au conservatoire et vous aussi, bon, vous avez joué avec tout le monde sauf avec Didier Levallée.
Voilà, c'est une grande première aujourd'hui pour rajouter ça sur les CV.
Voilà. Et alors, vous m'avez alléché, si j'ose dire, parce que vous avez proposé, quand on a préparé cette émission, on a parlé de transcription tout à l'heure avec le quatuor Morphing du quatuor de Ravel, notamment. Vous proposez une version jazzy et personnelle du prélude à l'après-midi d'un faune.
Oui, mais c'est un petit peu mon dada et mon cheval de bataille. Oui. Étant pianiste classique au départ.
Au départ, absolument.
Pour moi, j'ai grandi dans une famille de musiciens de jazz, puisque mon père était trompettiste. Oui. Je crois que Guy l'a bien connu. Et donc, le jazz je l'avais dans la peau de toute façon. Donc, oui. J'ai fait des études classiques.
Et vous avez travaillé avec Ciccolini, notamment.
Avec Aldo Ciccolini, oui. Et puis, au bout d'un moment, j'ai cherché le moyen de faire se rejoindre un petit peu les deux univers. Et donc, ma manière de faire a été de récupérer le répertoire classique et de le transformer un peu en jazz pour en faire un prétexte à improvisation. Mais un peu comme on prendrait n'importe quel standard ou n'importe quelle chanson. Et puis, on le rhabille un peu dans l'idiome jazz.
Et vous l'improvisez donc en partie à chaque fois?
Alors, il y a des parties improvisées, il y a des parties qui sont un peu plus prévu à l'avance parce que on n'a pas non plus la science 100% infuse, donc il faut un peu travailler, mais en tout cas c'est une version tout à fait unique.
Eh bien écoutez, alors je crois qu'on est tous impatients de la découvrir, si vous voulez bien nous la jouer maintenant sur ce piano Steinway dans le farinier de l'abbaye de Cluny. Thank you. Merci, merci et un grand bravo à Hervé Célin. Je suis sûr que Debussy aurait aimé entendre son prélude comme ça.
J'espère, j'espère. Ça fait quelque temps que je pratique ce genre de choses. Je suis toujours vivant, donc c'est que de là-haut, ça doit plutôt bien se passer.
En tout cas, une autre chose rapidement qui m'a frappé en relisant tout ce que vous avez fait tout seul avec les plus grands aussi, comme Johnny Briffin, Didi Bridgewater, Richard Galliano, Wynton Marsalis et d'autres, c'est que vous avez, comme tout le monde ici, aussi un éclectisme, une curiosité qui vous a conduit aussi vers la comédie musicale, vers Magali Noël, vers l'orchestre de Raymond Lefèvre même. Toutes ces expériences-là sont intéressantes pour vous.
Oui, oui, mais ça, je dois ça beaucoup à l'héritage de mon père qui était donc musicien de métier à l'époque et qui m'a fait rencontrer beaucoup de gens qui travaillaient pour la chanson française, pour le spectacle, pour le théâtre. J'ai beaucoup travaillé pour le théâtre et notamment grâce à quelqu'un qu'on a tous connu dans le métier qui était l'orchestrateur de Jacques Brel, François Robert.
François Robert, bien sûr,
qui était un ami très cher et qui m'a fait rencontrer énormément de gens, et notamment Magali Noël, Jacqueline Dano. Raymond Lefèvre, c'était autre chose, puisque mon père avait beaucoup travaillé avec Raymond Lefèvre, donc j'ai fait quelques tournées au Japon avec ça. Mais j'aime beaucoup ça aussi, cette notion du métier, d'essayer toujours de donner le meilleur de soi-même, quelle que soit la musique.
Et Jacqueline Dano, qu'on salue, j'espère qu'elle reviendra bientôt dans cette émission.
J'espère aussi, parce que je suis très très proche d'elle.
Alors merci en tout cas Hervé Célin. Alors vous n'êtes pas cette année dans le festival, je crois que vous serez là l'année prochaine, m'a dit Guy Touvron.
Mais c'est avec plaisir.
Un de vos élèves sera là par contre cette année, Paul Lay, je crois. Hein.
Oui, voilà, oui. Voilà. Donc un merveilleux pianiste, jeune pianiste, que j'ai eu la chance de former avant et pendant le Conservatoire de Paris, qui vole de ses propres ailes merveilleusement bien.
Alors, on va tous vous retrouver dans quelques instants pour le concert final, si j'ose dire, mais je me retourne à nouveau vers Didier Devallée, juste en quelques mots pour nous dire les moments forts du festival Jazz Campus en Clunisois.
Les moments forts, ils sont tous les jours.
Vous avez raison.
Parce voilà que, bon, en fait, quand je regarde évidemment, c'est intentionnel, mais il y a des gens qui sont là depuis plusieurs dizaines d'années, qui sont des gens qui ont construit la musique dans ce pays. Il y a des gens qui, enfin, en fait, il s'agit de faire entendre tout ce qui s'invente, tout ce qui est en vivant dans cette musique, en sachant que le jazz d'aujourd'hui est extrêmement divers. Donc tous les soirs, c'est très différent.
Mais vous avez d'ailleurs toujours été un découvreur, Didier Levallée, un audacieux aussi, allant parfois vers des formes de musique pas forcément a priori très grand public. Mais ça a bien pris avec le public du Clunisois, qui est qui n'est pas forcément très habitué au jazz moderne.
Ah non, alors bon, vous savez, quand j'ai commencé en 1977, on me regardait avec des yeux ronds, parce qu'on me disait mais à Cluny, surtout à l'époque où il n'y avait aucune activité culturelle sur la ville, c'était, mais Cluny, c'est le chant grégorien, et puis c'est tout, le reste, faut oublier, hein. Or, bon, quand même, les choses ont changé, et moi, j'ai l'impression d'avoir un vrai rapport de complicité avec un public qui est composé pour partie, et je parle surtout des gens résidents à Cluny et autour, de gens qui ne sont pas forcément des cinglés de jazz, mais qui sont des gens qui se cultivent, qui vont au théâtre, qui vont au cinéma, qui vont à la danse, et qui vont au concert, donc, et qui, quand je les croise après, me disent, bon, on connaissait pas, hein, ouais, mais on savait qu'on pouvait venir en confiance, voilà.
Bon, alors je crois que le mieux, c'est d'aller peut-être voir le site aussi, hein. C'est du 19 au 26 août, donc dans cette belle région, et c'est le site jazzcampus.fr. Didier Levallée, vous allez dans un instant d'ailleurs rejoindre Hervé Célin, donc pour jouer pour la première fois ensemble, Un jour mon prince viendra, mais ça c'est une autre affaire, et on va tout de suite, juste pour faire la transition, et pour faire plaisir à nos invités qui aiment toutes les musiques monastiques, écoutez quelques pages d'une grande musique un peu suave anglaise qui s'intitule « Dans les jardins d'un monastère ».
Thank you.
dans les jardins d'un monastère de l'immortel Albert Ketelbé. Vous connaissiez François-Xavier Verger ?
Oui, bien sûr, et j'apprécie particulièrement d'entendre dans ce morceau la fontaine au cœur du cloître et les petits oiseaux qui amènent la paix.
On peut trouver la même chose ici.
À la fontaine, plus aujourd'hui, mais un jour, bien sûr. Et les petits oiseaux sont là, à Cluny, bien sûr.
Merci, en tout cas, d'avoir été avec nous ce matin pour évoquer cette merveilleuse abbaye. Merci aussi à vous, Jean-Pierre Maurice, d'avoir été avec nous pour évoquer la vie de Cluny.
Merci à vous.
Et de sa communauté de communes.
Et à vos auditeurs, il se passe quelque chose tous les soirs de l'été, donc il ne faut pas hésiter à venir à Cluny.
Voilà.
Benoît Dutertre. Étonnez-moi Benoît, France Musique.
Et pour terminer donc cette Étonnez-moi Benoît en direct de Cluny, on va finir par un petit concert avec tous nos musiciens du jour. Et pour commencer, ce sera le quatuor Morphine qu'on retrouve avec joie, ce quatuor de saxophone dans les danses balkaniques de Marko Tashkevich, des toutes petites pièces, c'est le maître de la petite forme qui va donc être ici interprété pour nous.
Thank you.
Merci au Quatuor Morphine pour ces danses balkaniques de Tashkevich, jouées donc par, on va prendre dans l'ordre inverse pour une fois, Mathieu Delage au baryton, Anthony Malkoun Orion au ténor, Eddy Lopez à l'alto, Christophe Grèze au soprano. Juste une question, Christophe Grèze, parce que je crois que vous êtes le grand spécialiste des embouchures. Alors je vois ces ligaments rouges autour de vos quatre saxophones, ça a un sens particulier?
Alors ce ligament est tout simplement une ligature, et en fait cette ligature permet de tenir l'anche, le petit bout de roseau sur le bec. Et alors tout simplement tous les quatre rouges, parce que normalement, là vous le voyez pas, mais normalement on joue en costard avec une cravate rouge. Voilà, donc c'est un petit effet.
Ah voilà, ça fait partie de...
Mais et là c'est rouge.
Par ailleurs, vous êtes le grand maître des becs de saxophone.
Hein. Alors le grand maître, peut-être pas dire ça, mais en tout cas, voilà, je travaille pour la facture instrumentale. Voilà, exactement, la maison Selmer, où je développe avec eux, avec toutes les équipes, les becs des futurs saxophonistes et clarinettistes.
Ben merci, merci à tous. Merci Eddy Lopez aussi de nous avoir présenté le Quatuor. Et on vous retrouvera cet été donc ici même en Bourgogne, notamment au festival Musique au Chambertin et puis également au festival de Bach à Bacchus le 16 juillet. Et vous serez également aux rencontres musicales de Noyers-sur-Serein, le Quatuor Morphine, donc tout l'été en Bourgogne. Maintenant, deuxième morceau de cette finale, c'est Didier Levallée qui est à la contrebasse avec Hervé Célin dans leur libre variation sur le fameux thème « Un jour, mon prince viendra ». Thank you. Merci beaucoup à Didier Levallée et Hervé Célin. Merci beaucoup donc pour ce Un jour mon prince viendra. Et je vous invite donc à découvrir Jazz Campus en Clunisois du 19 au 26 août. On va se quitter en musique avec Guy Touvron qui nous accueille, je le rappelle, aujourd'hui à l'occasion du lancement de son festival Les Grandes Heures de Cluny. Guy Touvron, Michel Glascau, Bruno Membré qui vont terminer sous ces voûtes toutes pleines de religion de l'abbaye de Cluny. En nous jouant froufrou. Voilà, ben c'était l'esprit de l'émission de ce matin. Merci en tout cas à tous d'avoir été avec nous. Voilà, c'est ainsi que s'achève Étonnez-moi Benoît aujourd'hui en direct de Cluny avec à la technique Gérard Cognier, Élodie Royer, Sébastien Hurel, Pascal Morel. L'émission était préparée avec Annie Comier et Emmanuel Lacaze, attaché de production, réalisation Christine Amado. Et on se retrouve bien sûr samedi prochain, je vous le rappelle, pour fêter les 90 ans de Marcel Azola en direct sur France Musique. Là, ce sera à la maison de la radio. Voilà, il est midi et demi sur France Musique. Nous allons rentrer à Paris et retrouver maintenant Philippe Venturini. Bon week-end à tous.